VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Cameroun, la justice camerounaise a ouvert des enquêtes sur le bilan des récentes violences en zone anglophone, notamment lors des manifestations indépendantistes du 1er octobre dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où les forces de sécurité n'ont pas fait usage de leurs armes à feu, affirment les autorités. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense, Joseph Béthi Assomo, dans une intervention ce vendredi à la radio d'État. Le ministre s'est rendu jeudi à Boya, le chef-lieu du Sud-Ouest, où il dit avoir présidé sur instruction du président Paul Biya une réunion sur la situation sécuritaire dans les zones anglophones, en proie depuis novembre 2016 à une grave crise sociopolitique. Selon un décompte de l'AFP, au moins 14 personnes ont été tuées le 1er octobre lors de la proclamation symbolique de l'indépendance de l'Ambazonie, le nom de l'État que les sécessionnistes anglophones veulent créer. Mais des ONG et des responsables de l'opposition avancent un bilan beaucoup plus lourd et accusent militaires et policiers d'avoir ouvert le feu sur les populations, notamment depuis des hélicoptères. Pour sa part, le ministre camerounais de la communication, Issa Chiroma Bakari, porte-parole du gouvernement, chiffre le bilan à 10 morts, alors que les gouverneurs des deux régions concernées l'établissent à 12 tués. En RDC, l'opposition parle de déclaration de guerre au peuple congolais. C'est en ces termes que les opposants ont réagi à l'annonce de Corneille Nangaa, président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, sur la tenue des élections en 2019. Et écoutez la réaction de Winnie Delors-Ongenda, porte-parole politique du présidium de la transition sans Kabila.
La CENI est en complicité avec M. Kabila pour le glissement sans fin parce que M. Kabila voudrait se maintenir au pouvoir indéfiniment. Au niveau du DNPCCT, nous ne reconnaissons plus le régime de M. Kabila que nous considérons comme un citoyen ordinaire. M. Kabila n'engage plus la République démocratique du Congo. M. Kabila est arrivé par la force, un coup d'État au Congo et donc il veut partir par la force. Quand tous les moyens pacifiques sont épuisés, la violence, comme disait Nelson Mandela, devient légitime. Voilà où nous a mené M. Kabila.
Willy Delors-Ongenda, secrétaire général de la coalition des Congolais pour la transition. En Afrique du Sud, la justice sud-africaine a rouvert ce vendredi la voie à un éventuel procès pour corruption contre le président Jacob Zuma. Dans une affaire de vente d'armes qui tient les Sud-Africains en haleine depuis une bonne dizaine d'années. Dans un jugement lu à l'audience par le juge Eric Litch, la Cour suprême d'appel de Bloemfontein dans le centre du pays a rejeté un appel du chef de l'État contre la décision de relancer contre lui 783 inculpations de corruption, fraude fiscale et extorsion de fonds dans le cadre de ce dossier. Très attendu, cette décision renvoie la balle dans le camp du parquet général sud-africain, qui doit désormais décider de relancer ou non le dossier et éventuellement de renvoyer Jacob Zuma devant un tribunal. Au Kenya, des centaines de partisans de l'opposition manifestent ce vendredi dans les principales villes du pays, braves en interdiction du gouvernement pour faire entendre leur opinion à l'approche de la présidentielle du 26 octobre. Le gouvernement kenyan a interdit hier les manifestations dans les centres d'affaires des trois principales villes du pays, Nairobi, Mombasa et Kisumu, en raison de la menace claire, présente et imminente de troubles à l'ordre public, dit-il. Mais les partisans du leader d'opposition Raila Odinga n'ont pas hésité à défier cet ordre. Élection toujours au Libéria, l'ancien footballeur George Weah est en tête du premier tour de l'élection présidentielle dans le pays, et ce dans 11 des 15 régions, selon les résultats partiels annoncés jeudi. Les chiffres ont été fournis par le président de la commission électorale, Jérôme Corcoya, deux jours après le scrutin, Michel Joseph.
L'ancien buteur du Paris Saint-Germain et du Milan AC et le vice-président Joseph Boakai ont tous deux affiché leur confiance quant à l'issue du scrutin. Un représentant du Congrès pour le changement démocratique, auquel appartient George Weah, a lancé à la radio une invitation à une célébration de pré-victoire devant le siège du mouvement, envisageant même une victoire dès le premier tour. Mohamed Ali, directeur de campagne de Joseph Boakai, qui se présente pour le Parti de l'Unité, a quant à lui assuré à Reuters que les nouvelles en provenance de tout le pays annonçaient un second tour aisé pour le vice-président début novembre face à George Weah. Criant à la fraude, les formations de trois autres candidats ont annoncé leur intention de contester les résultats. Les observateurs de l'Union européenne, leurs collègues américains du Carter Center et ceux du National Democratic Institute n'ont toutefois signalé aucune irrégularité. En 2005, George Weah avait été battu par Ellen Johnson Sirleaf, première femme portée à la présidence d'un État africain, qui a été reconduite ensuite en 2011. Le Libéria, où deux guerres civiles ont fait rage entre 1989 et 2003, n'a pas connu d'alternance démocratique depuis 1944. La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le Burkina Faso commémore ce dimanche 15 octobre les 30 ans de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara lors du coup d'État qui porta au pouvoir l'ex-président Blaise Compaoré. La chute de Blaise Compaoré donne une occasion de pouvoir enfin connaître la vérité, d'autant que les Burkinabés ne veulent pas oublier, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Issa Napon.
À l'orée du 30e anniversaire de la disparition du président Thomas Sankara, c'est vers la justice que tout le regard se dirige. Le dossier, rouvert sous la transition politique en 2015, serait en bonne voie, assure l'avocat de la famille, Maître Benewede Sankara.
Le dossier Thomas Sankara est toujours dans le cabinet du juge d'instruction et qui n'a pas encore clôturé le dossier. C'est vrai que la recherche de l'ADN est restée fructueuse, mais il y a eu d'autres expertises, comme l'expertise balistique, il y a aussi beaucoup de témoins, plus d'une centaine. Maintenant, les questions de procédure et d'implication, notamment d'autres pays, comme la France, où il y a une commission rogatoire, comme d'autres personnalités qui ont dit des choses dans des journaux qui seront également entendues, font que le dossier nécessairement doit traîner.
Les circonstances de cet assassinat laissent encore perplexes des acteurs de l'époque. Émile Nakoulma, alors membre de la sécurité du président du Conseil national de la Révolution, était resté au palais avec les fils du président.
Ici, je ferme les yeux comme ça, je vois le véhicule qui tourne comme ça pour aller au conseil. Et puis quelques minutes après, il y a eu les tirs. Les enfants, bon, fallait les faire sortir du palais, c'est ce qu'on a voulu faire.
L'attention se porte sur Blaise Compaoré, dont l'éruption très tôt aux côtés de Thomas Sankara ne fut pas anodine, analyse le colonel Abdoussalam Kabore, ministre de la Santé sous la Révolution.
C'est Thomas qui l'a copté dans le groupe des jeunes officiers. Thomas était notre chef incontestable et incontesté. Lui faisait confiance. Thomas avait déjà une certaine renommée dans ce pays. Et je suis persuadé que lorsque Blaise était attaché à Thomas, il avait une idée derrière la tête.
Suffisant pour indexer l'ancien maître de Koussiam? Certainement pas, même si nombre de questions tournant autour de Blaise Compaoré continuent de hanter les compagnons du leader de la Révolution. C'est le cas de l'unique rescapé de la tuerie du 15 octobre 1987, Alain Traoré, assurant garder des séquelles.
Je devais faire le compte-rendu de ma mission. À peine j'avais commencé, on a entendu les crépitements. Et puis ceux du dehors demandaient « sortez, sortez, sortez ». Bon, le président s'est levé, il a tiré son survêtement vers le bas, les mains en l'air, il a été le premier à sortir de la salle. Bon, il a arrêté qu'il y a froid. La perte a été immense parce que pour une fois, les bases sur lesquelles on était parti étaient les meilleures. Quand on sort d'un tel événement, je ne vous dis pas les dégâts personnels. Pour vous dire, j'ai fait plusieurs dépressions nerveuses.
La crainte reste pourtant réelle que la vérité se dissipe, s'inquiète le colonel Abdoussalam Kabore.
J'ai bien peur qu'un jour on se dise amnistie générale, pas le problème. J'en ai bien peur, j'en ai bien peur. On attrape des gens et après on les relâche, ils reprennent leur vie quotidienne. Non, non, il faut quand même qu'il y ait une justice. Et c'est pas pour rien que nous sommes regroupés pour faire le mémorial à son souvenir.
Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Afrique du Nord, l'ONU s'insurge contre le traitement des détenus en Libye. Le haut commissaire onusien aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, dénonce les nombreux abus et violations perpétrés dans plusieurs centres de détention dans le pays. Et enfin, au Proche-Orient, signature mercredi au Caire d'un accord de réconciliation inter-palestinienne. Le Hamas et le Fatah sont maintenant déterminés à mettre fin à une décennie de déchirement. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.